Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Jean-Pierre Brun, titulaire de la chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique, consacre le cours de cette année 2012-2013 aux parfums dans l'Antiquité, à leur production, à leur commerce, à leurs usages. Dans sa leçon inaugurale prononcée le 5 avril dernier, il avait annoncé qu'il entendait faire du Collège de France, je cite, une maison commune des archéologues français, européens, méditerranéens qui s'intéressent à l'histoire des techniques et à l'archéologie des activités économiques. Et il annonçait « J'inviterai les archéologues de terrain à présenter les dernières découvertes en rapport avec ces domaines de recherche afin de créer avec eux une dynamique de mise en série des données nouvellement acquises. » Fin de citation. Ce soir, nous allons entendre l'un de ses jeunes collègues confirmés, Dominique Frère, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Jean-Pierre Brun a rappelé que Dominique Frère a consacré en 1995 sa thèse de doctorat au vase étrusco-corinthien en Étrurie, qu'il s'est intéressé par ailleurs au vase étrusco-corinthien trouvé en Gaule du Sud, c'est-à-dire essentiellement à Marseille et à Montpellier, ainsi qu'aux collections de ces vases conservées dans certains musées français. Il a participé à des recherches collectives consistant notamment aux analyses chimiques des contenus de ces vases. Il a publié deux ouvrages collectifs aux presses universitaires de Rennes. En 2008, « Parfums et odeurs dans l'Antiquité », en collaboration avec Véronique Mel et Lydie Baudiou. Et en 2012, « Huile parfumée en Méditerranée occidentale et en Gaule » avec Laurent Hugo. Dominique Frère nous présente ici l'état de ses recherches. Écoutez.
Quand on parle de l'époque archaïque, on parle évidemment d'une période très précise qui s'étale du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, jusque dans les années 490-480. Mais la première image que je vous montre est un peu anachronique par rapport à cette période, puisque c'est une célèbre fresque de la Villa Farnesina de Rome. Célèbre fresque parce qu'elle est utilisée comme illustration de nombre d'ouvrages sur le parfum antique. Et en effet, nous voyons une jeune femme. Ce qui m'intéresse ici dans cette image, c'est la gestuelle de cette jeune femme qui est en train d'emplir un petit vase à parfum. Donc ce qui m'intéresse, c'est la gestuelle. Cette jeune femme, soit est en train de fabriquer elle-même son parfum, soit est en train d'emplir un vase à parfum, donc à l'aide d'une petite cruche. Et ces deux vases qu'elle manipule, cette petite cruche qu'elle tient entre le pouce et l'index, on pourrait l'appeler une olpée, c'est-à-dire exactement le type de vase verseur que l'on utilise depuis l'époque archaïque et sans doute justement pour la fabrication des parfums. Donc nous avons un véritable fil conducteur entre l'époque archaïque et l'époque romaine. Même fil conducteur pour cet autre vase donc, que vous voyez ici, donc elle tient de l'autre main, que vous voyez très bien dans le creux de sa main. Il s'agit, nous avons ici une forme d'alabastre, c'est-à-dire exactement le type de petit vase dont je vais amplement vous parler tout à l'heure. Donc nous voyons ce lien qui existe entre l'époque, nous franchissons les siècles, entre l'époque archaïque et l'époque romaine, et lien qui concerne évidemment les formes des vases. Nous avons, évidemment, malgré des évolutions techniques, véritablement une continuité en ce qui concerne les formes de vases, mais nous allons voir aussi certaines pratiques culturelles. Et ces formes de vases, c'est justement cela qui m'intéresse, apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ et elles accompagnent évidemment de nouvelles pratiques culturelles. Alors, voici ce type de petit vase qu'on peut appeler aribal, alabastre. Je vous parlerai tout à l'heure des inscriptions qui figurent sur ces petits vases et comme inscription, on retrouve les termes de lekitos, askos, c'est-à-dire des termes qui désignent en fait à l'origine donc des petites outres en cuir, les kitos et ascos. Mais nous avons, depuis le XIXe siècle, donc un vocabulaire qu'on peut qualifier, un vocabulaire d'archéologique, et donc on appelle ces vases aribales, alabastre ou lessite. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous voyez que c'est des vases de petite dimension qui tiennent très bien dans le creux de la main, que l'on peut boucher à l'aide du pouce et agiter, donc pour mélanger le contenu. Et nous verrons justement, quand je vais vous parler d'iconographie, que ce type de petit vase donc, pouvait accompagner donc, le citoyen athénien, le citoyen corinthien, dans nombre de ses déplacements quotidiens, mais ce genre de petit vase était aussi l'objet quotidien d'un étrusque, mais aussi, nous verrons, par exemple, d'un phénicien. Donc le 8e siècle, à partir du 8e siècle, apparaît ce qu'on pourrait appeler la Méditerranée des aribales et alabastres. Alors c'est aussi l'époque où donc, se diffusent aussi en Méditerranée ces grands conteneurs que sont les amphores. Les amphores qui contiennent en particulier de l'huile et du vin. Et c'est aussi l'époque où se diffusent donc, ces petits objets qui sont pour la plupart en céramique, mais pas seulement en céramique, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais qui contiennent ce que l'on pense être du parfum. Et vous voyez que ces petits vases donc, sont diffusés dans toute une partie de la Méditerranée, de la Méditerranée orientale jusqu'à la Méditerranée occidentale, jusqu'à l'Espagne, et nous en avons aussi des exemplaires en Gaule du Sud. Peu nombreux, mais ils sont bel et bien présents en Gaule du Sud, nous en avons en Afrique du Nord, en particulier à Carthage, et dans toutes les zones colonisées par les Grecs, dans toutes les zones étrusques ou étrusquisées, mais aussi dans les zones qu'on pourrait qualifier de phénico-puniques. Donc, nous sommes dans le contexte ici d'un véritable changement économique. Ici, justement, un changement économique qu'il faut tenter d'identifier. De quoi s'agit-il ? Quand on parle du commerce de ces petits vases à parfum, est-ce que ce sont les vases qui étaient livrés pour eux-mêmes ou est-ce que c'est leur contenu qui était à l'origine de ce commerce ? C'est ce qui va particulièrement nous intéresser. Alors, ces vases, ces petits vases de l'époque archaïque, ont fait l'objet de nombreuses études. Et là, je vous présente donc une étude récente, celle de Fabienne Coudin, qui vient de publier cet article sur les aribales laconiens. Et vous voyez donc sur cette planche une évolution chronologique d'un type d'aribales bien défini, ce sont les aribales laconiens. Eh bien, malgré ce que l'on pourrait dire sur le fait que les Spartiates ne se parfumaient pas, il y avait pourtant, à l'époque archaïque, une production de petits vases à parfum, donc on appelle les vases laconiens. Et vous voyez que cette production commence dans la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et elle cesse donc dans le 3e quart du 6e siècle. Mais je cite Fabienne Coudin qui nous dit « La céramique laconienne ne forme qu'une série secondaire de l'époque archaïque qui se place numériquement loin derrière les séries corinthiennes et attiques. » Bref, la production de vases laconiens est une production de faible ampleur. Nous avons par contre des productions massives. On peut vraiment les qualifier de productions massives. Alors je vous montre ce tableau, ici, ce tableau de synthèse, ce tableau simplifié, où nous pouvons identifier deux productions massives, celle de Corinthe. Voici l'évolution des formes dans les ateliers corinthiens, du milieu du 7e siècle, vers 650, jusque dans le 3e quart du 6e siècle. Donc production massive de ces ateliers corinthiens. Autre production massive qui a fait l'objet de très nombreuses études, la production attique, Athènes et sa région. Et là, à Athènes, nous voyons naître une forme qu'on appelle le lessite, qui naît, bah, vous voyez, dans le premier tiers du VIe siècle avant Jésus-Christ, sauf que cette production de lessite devient véritablement massive à partir des années 540-530. Ils vont avoir une production de lessite, puis de lessite aribalisque, pendant tout le Ve siècle et même au-delà. Alors faisons bien attention à la chronologie. Vous pouvez vous apercevoir que ces petits contenants corinthiens cessent d'être produits, du moins d'être produits massivement. Il en existera toujours, mais ils ne seront plus produits massivement, donc à partir du troisième quart du VIe siècle. C'est ce que l'on voit ici. À l'époque même où, je vous l'ai dit, vers 540-530, les lessites attiques, eux, sont produits de manière massive. Donc on a pu parler de véritable concurrence, de véritable phénomène économique de concurrence où les ateliers attiques s'imposeraient à l'échelle d'une grande partie de la Méditerranée et entraîneraient la fin de la production massive des ateliers corinthiens. Alors évidemment, quand on parle de concurrence, du coup, on parle de concurrence entre quel et quel produit. S'agit-il de l'huile parfumée d'Athènes et de sa région qui devient prédominante et qui entraîne la disparition, ou pas la disparition, mais la raréfaction de l'huile parfumée produite à Corinthe. Donc, nous nous intéressons à cette question. Mais il y a une troisième production massive, et qui est quand même étonnante. C'est celle des ateliers étrusques. Là, pour l'instant, je ne vous ai parlé que d'ateliers grecs. La Laconie, Corinthe, l'Attique. Nous avons en Étrurie, en Italie centrale, à partir donc des années 640-630, là aussi une production massive. Une production massive de petits vases à parfum. Et cette production massive, comme à Corinthe, va se poursuivre jusque vers le milieu du VIe siècle. C'est-à-dire que, pour raisonner comme les anciens, nous avons à peu près trois générations. Trois générations de production de vases à parfum et donc sans doute d'huile parfumée en Étrurie. Alors on parle pour ces ateliers étrusques d'ateliers étrusco-corinthiens, puisque les formes sont d'imitation corinthienne et il s'agit d'artisans corinthiens qui sont venus s'installer en Italie centrale et qui ont fondé des ateliers en Italie centrale. Mais vous comprenez bien que de quel type d'artisans parle-t-on ? Il y a les potiers, bien sûr, et ça on en est sûr, mais n'y a-t-il pas aussi les parfumeurs qui, de Corinthe, sont venus s'installer en Étrurie ? Alors en fait, quand on parle d'ateliers étrusco-corinthiens, on simplifie les choses, parce que, même si l'image est petite, vous pouvez constater qu'il y a en Étrurie des formes extrêmement originales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Regardez-les bien, parce que vous allez, elles jouent un rôle important. Vous avez ce type de petites bouteilles qu'on appelle les alabastres à fond plat et qu'on ne connaît nulle part ailleurs qu'en Étrurie. Vous avez des alabastres carénés, de belles formes d'alabastres carénés qu'on ne connaît nulle part qu'en Étrurie. Vous avez aussi ce qu'on appelle des alabastres pointus, ici. C'est-à-dire nous avons une vaste gamme de formes extrêmement originales qui naissent en Étrurie. Et nous verrons que les modèles donc, de ces formes sont à chercher, pas seulement du côté du monde corinthien, mais aussi du côté du monde levantin et du côté du monde chypriote. Alors, évidemment, tout le problème, quand on parle de concurrence économique, quand on parle de l'installation de parfumeurs en Étrurie, tout le problème pour nous, puisque nous avons l'emballage, les vases eux-mêmes, comme ils sont en céramique, vous savez que la céramique, c'est pratiquement indestructible, même si on casse un vase, il en reste les tessons qui sont identifiés donc, par les archéologues. Mais ce qui nous manque, c'est le contenu. Le contenu, aucun de ces vases n'a été livré aux archéologues plein. On n'a jamais retrouvé un vase bouché et plein, donc ils sont tous vides. Et d'apparence, nous n'avons aucune trace visible ou olfactive du contenu de ces vases en céramique. Donc nous avons l'emballage, mais que contenait-il ? Est-ce qu'il contenait vraiment du parfum ou est-ce qu'il ne pouvait pas contenir un autre produit organique ? Alors, heureusement, pour répondre à cette question, nous avons pour l'époque archaïque de nombreuses sources. Nous avons les sources textuelles, parce que l'époque archaïque, c'est quand même l'entrée dans l'histoire. C'est d'abord les premiers textes, et en particulier les textes d'Homère et les textes d'Hésiode. Mais nous avons aussi, pour toute l'époque archaïque, ceux qu'on appelle les poètes lyriques, et qui nous donnent beaucoup d'informations sur le statut du parfum et sur l'usage du parfum. Il y a eu de nombreuses études de fait depuis le XIXe siècle, donc à partir de ces sources littéraires. Donc je n'entrerai pas dans les détails, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le statut du parfum. Le parfum a une dimension olfactive, bien entendu, mais pas seulement olfactive. Il y a une autre dimension qui est très importante, c'est celle de la luminosité. Et ça, c'est très, très important. S'il y avait un grec ou un étrusque du 7e siècle parmi vous, je pourrais non seulement le sentir tout de suite, mais le voir tout de suite, car il aurait les cheveux enduits de parfum. Pas forcément dans la vie quotidienne, mais dans le cadre de certaines occasions, il y a les cheveux enduits de parfum, il y a cette dimension visuelle aussi qui est très importante. Et le parfum ou l'huile parfumée ne sert pas seulement à enduire les cheveux, la poitrine, mais il sert aussi, ça c'est très important, à enduire les statues cultuelles, à enduire les pierres sacrées. Donc, dimension ici qui est très importante de cette huile parfumée qui ne sert pas seulement donc pour les soins du corps ou la beauté du corps, mais qui sert aussi à enduire les statues cultuelles et les pierres sacrées. Alors, les sources textuelles, évidemment, qui sont très importantes pour nous. Les sources épigraphiques. Nous avons un grand nombre d'inscriptions donc sur ces vases à parfum. Mais ces sources épigraphiques sont très nombreuses au 7e siècle et elles se raréfient au 6e siècle. Donc, nous avons des sources très importantes, mais véritablement localisées dans le temps. 7e siècle et une partie du 6e siècle. Nous avons heureusement des sources iconographiques. Sources iconographiques très nombreuses sur les vases peints d'Athènes à partir de 540 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, et là, ce n'est sans doute pas une coïncidence, au moment où les inscriptions sur les vases à parfum se raréfient, nous voyons les vases à parfum mis en scène dans l'iconographie. Donc, iconographie d'Athènes, mais aussi iconographie étrusque. Et là aussi, nous avons une mise en scène des vases à parfum à partir de 540 avant Jésus-Christ. Et enfin, les sources archéologiques, évidemment, qui sont très nombreuses, les contextes archéologiques. Les contextes archéologiques, c'est d'abord et avant tout les tombes, mais c'est aussi les sanctuaires, les épaves, les habitats. Le matériel archéologique dont je viens de vous parler, nous avons des dizaines de milliers de vases à parfum et chaque année, on met au jour, à nouveau, donc plusieurs centaines de vases à parfum. On ne peut même pas les compter, tellement ils sont nombreux. Juste à titre d'indication, lors de ma thèse, j'ai fait un inventaire des vases à parfum étrusco-corinthiens. Je suis arrivé à pratiquement 9000 vases étrusco-corinthiens. En sachant que, évidemment, même si on essaye de tout dépouiller, on ne peut pas. Il y a de nombreux contextes qui nous échappent. Donc j'en étais à 9000, mais vous pouvez imaginer qu'ils sont en fait beaucoup plus nombreux. Simplement les vases étrusques. Alors je ne parle même pas des vases corinthiens qui sont encore beaucoup plus nombreux, ni des lycites attiques. Donc nous avons un très très grand nombre donc, de ces objets même. Donc le matériel archéologique lui-même. Et enfin, évidemment, ce qui est beaucoup plus récent pour nous, les analyses des contenus. Alors, grâce à ces sources, on peut aborder trois questions différentes. Question de la production. Question de la production, quelles sont les aires de production, quels sont les ateliers de production, évidemment, les techniques de fabrication de ces huiles parfumées et les matières premières employées. Deuxième question, c'est le commerce. Caractéristiques des modes de conditionnement. Comment était livré le parfum ? Jean-Pierre Brun vous en a déjà parlé. Certains pensent que ces petits vases à parfum étaient livrés vides et que le parfum lui-même était contenu donc dans des amphores et que les petits vases accompagnaient donc des amphores. D'autres pensent au contraire que ces petits vases à parfum étaient livrés pleins, bouchés et pleins. Donc, les caractéristiques des modes de conditionnement, de transport, d'échange, comment étaient échangés, vendus, donc ces vases à parfum, quelle était la valeur donc, de ces vases à parfum, quelle était la valeur de l'objet, quelle était la valeur de ce qu'il contenait. Troisième question, la nature, le statut et l'usage de l'huile parfumée. Donc évidemment, les caractéristiques du contenu, cette huile parfumée, quelle est-elle véritablement? Le rapport entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire est-ce que l'objet lui-même, la forme de l'objet, ou même son décor, peut nous donner des informations sur ce qu'il contient. Les contingences de la consommation, comment est-ce que l'on va utiliser cette huile parfumée, et évidemment la dimension sociale et culturelle, dimension sociale, est-ce que le parfum est réservé aux riches, ou est-ce que d'autres classes de la population ont accès à la consommation de ce parfum ? Et dimension culturelle qui est très importante. Je vous ai dit qu'on a, par exemple, retrouvé quelques vases à parfum en Gaule du Sud, en Italie du Nord, celtisée, par exemple. Quand on retrouve un vase à parfum grec ou étrusque dans une tombe celte, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie que ce guerrier celte, parce qu'on a quelques exemples de vases à parfum découverts donc, dans des tombes de guerriers celtes, est-ce que ça signifie que, lors des cérémonies funéraires, donc, nous avons, dans ce cadre ici culturel celte, est-ce que nous avons l'attestation d'une cérémonie typiquement grecque, comme la prothésis, par exemple ? Est-ce que cet aribal que l'on retrouve dans une tombe celte signifie que ce contenu a servi à enduire le corps du défunt, ce qui serait une cérémonie typiquement grecque, mais dans un contexte celte. On pourrait dans ce cas parler d'acculturation. Mais nous verrons justement cette dimension culturelle. Alors, évidemment, en une heure, je ne peux pas vous parler de ces trois questions, la production, le commerce et la nature, le statut, l'usage de l'huile parfumée. Donc, je me concentrerai sur la troisième. Donc, de ces questions, la nature, le statut et l'usage de l'huile parfumée. Alors, les sources archéologiques. Et je vais vous faire une présentation des différentes sources, faire une sorte de bilan des sources. Les sources archéologiques, donc les contextes. Alors, les contextes, comme je vous l'ai dit, c'est à partir du fin du 8e siècle et surtout du 7e siècle que l'on commence à voir apparaître dans les tombes quelques vases à parfum. Et là, c'est le cas de cette tombe d'Italie du Nord, de Bologne ou Felsina. Donc, nous sommes dans un contexte étrusquisé. Et nous voyons donc que dans une tombe qui est culturellement celle de l'Italie du Nord, c'est-à-dire une culture mixte, nous voyons apparaître un vase à parfum. C'est une tombe féminine. Et nous voyons apparaître ici un alabastre corinthien. Et en effet, toute la zone que vous voyez en orange, ici, qui correspond à la zone, disons, d'étrusquisation de l'Italie. Les Étrusques sont présents en Italie du Nord, ils sont présents évidemment en Italie centrale, ils sont présents pendant toute l'époque archaïque dans le Latium, mais ils sont présents aussi, il ne faut jamais l'oublier, en Campanie. Et c'est dans toutes ces zones étrusquisées que l'on va voir se diffuser le parfum, que ce soit le parfum d'origine grecque, oriental ou étrusque. Mais nous voyons aussi de nombreux vases à parfum apparaître à partir du 7e siècle, évidemment, dans tout ce qui concerne les territoires colonisés par les Grecs, que ce soit en Italie du Sud ou que ce soit en Sicile. Alors, on peut n'avoir qu'un vase à parfum, donc par exemple dans cette tombe féminine. Mais je vais prendre un autre exemple, celui des grandes tombes aristocratiques étrusques. Là, nous avons ce qu'on appelle des tombes familiales. Donc là, je reprends des documents donc qui datent des années 20, qui correspondent à la date de découverte, donc de fouilles de ces grands tumulus, qu'on appelle les tumulus 1 et 2 de la nécropole de la Banditaccia. Et vous avez donc à l'intérieur de ces tumulus plusieurs tombes familiales. Et nous avons donc celle-ci qui est celle qu'on appelle la tombe des Chenets. Et voici ce qui a été découvert comme matériel dans cette tombe des Chenets. Vous avez un grand nombre de vases à parfum. Alors ce qui nous intéresse, c'est que ces vases à parfum sont corinthiens. Donc nous sommes dans le dernier quart du 7e siècle. Ces vases à parfum sont corinthiens, ces vases à parfum sont étrusques, vous avez des formes qui sont typiquement étrusques, mais nous avons aussi deux vases à parfum donc, qui sont égyptiens ou égyptisants. Et vous avez un autre vase à parfum, ici, qui est sans doute syrien ou levantin. Donc vous voyez que nous avons un très grand nombre de vases à parfum dans cette tombe féminine. Et évidemment, nous avons aussi le service du banquet. Donc les vases à verser et les vases à boire le vin. Alors, autre contexte que l'on a, où les vases à parfum sont extrêmement nombreux, ce sont les sanctuaires. Alors, les vases sont très, très nombreux dans les sanctuaires grecs, d'Italie du Sud, de Sicile. Ils sont très nombreux dans les sanctuaires du Latium, en Rome en particulier, mais dans pratiquement tout le Latium. Et ils sont évidemment nombreux aussi dans les sanctuaires étrusques. Alors, il faut savoir que ces vases sont souvent offerts à la divinité. Et on le retrouve, du coup, dans les dépôts votifs. Mais ces vases qu'on découvre dans les dépôts votifs ne nous apportent que peu d'informations. Par contre, mais c'est plus rare, c'est le cas ici, dans le cadre du sanctuaire méridional de Pyrgi, donc de la cité de Caéré, eh bien, nous retrouvons un ensemble donc, de vases à parfum qui ont été utilisés dans, ici dans des cérémonies rituelles bien précises. Et la découverte in situ de ces vases à parfum permet de reconstituer donc, le rituel. En sachant qu'il ne faut pas croire qu'on ne retrouve ces vases à parfum que dans les sanctuaires féminins, par exemple les sanctuaires en l'honneur d'Aphrodite. On va retrouver ces vases à parfum aussi dans ici, les sanctuaires en l'honneur de divinités masculines. Et nous verrons que pour l'époque archaïque, le parfum est autant dans le monde masculin que dans le monde féminin. Alors, les sources archéologiques. Alors, je ne vous ai pas parlé, donc évidemment, des autres contextes. Les autres contextes, c'est les épaves. Mais on a très peu d'épaves, en fait, à l'époque archaïque qui ont livré des vases à parfum. Nous n'avons que très peu d'informations, hélas. Nous avons évidemment, plus intéressant, les contextes d'habitat. Et là, on retrouve les vases à parfum, soit dans ce qu'on peut appeler des palais, donc, ou des habitats princiers, par exemple en Étrurie. Mais on peut retrouver ces vases à parfum aussi dans les habitats les plus modestes. Et on va même retrouver ces vases à parfum dans les villages de cabanes, en Ligurie, par exemple. C'est-à-dire que le parfum n'est pas forcément lié à un mode de vie qui est celui de la cité. On retrouve aussi les vases à parfum dans des villages de cabanes. Les sources archéologiques, le matériel dont j'ai déjà commencé à vous parler. Alors, vous voyez ces superbes vases à parfum. Là, vous avez des objets qui ne font que quelques centimètres de haut, qui n'ont que quelques centilitres de contenance. Et vous voyez les formes extraordinaires. C'est ce qu'on appelle des vases plastiques, qui reprennent la forme de tête de guerrier, qui reprennent la forme de tête de félin, de jambes humaines, donc de pieds avec sandales, qui reprennent les formes de tête de différents animaux, qui reprennent la forme de sirènes ou autres créatures fantastiques. Évidemment, tout le problème pour nous est de savoir est-ce que la forme spécifique de ces vases à parfum nous donne une indication sur le contenu, sur le parfum lui-même ou sur l'usage qui est fait donc de ce contenu. Nous avons, là je vous ai montré que des vases à parfum en céramique, mais nous avons aussi des vases à parfum qui sont faits en matière beaucoup plus noble, des vases en faïence. Et là aussi, vous voyez des vases à parfum qui sont extraordinaires. Extraordinaires et qui prennent des formes extrêmement originales, des formes de singes, des formes de hérissons, des formes de poissons, qui reprennent toujours des formes de tête de guerrier. Vous avez tête d'Héraclès aussi, donc des vases à parfum qui prennent la forme de coq, de cheval ailé. Donc là aussi, est-ce que nous sommes seulement dans le domaine du symbolique ? Mais dans ce cas, quel symbole est véhiculé donc par ces formes spécifiques ? Ou est-ce que ces vases à, la forme de ces vases à parfum nous donne des indications sur le contenu et l'usage qui est fait de ce contenu ? Par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, pourquoi a-t-on un très grand nombre de vases à parfum qui prennent la forme de hérissons ? Là, on est dans l'origine égyptienne de ce type de vase à parfum, mais c'est une question intéressante. Et pour l'époque, nous avons aussi des vases en verre sur noyaux d'argile. Et là aussi, ce sont des superbes vases. Là aussi, vous avez des aribales, vous avez des amphorettes, vous avez des alabastres qui sont donc en verre sur noyaux d'argile. Et là aussi, on a un très grand nombre donc de ces vases produits en Égypte, sans doute à Naucratis, produits en Grèce orientale, produits à Rhodes, et qui sont exportés dans toute une partie de la Méditerranée. Donc vous voyez, nous avons trois matières qui sont prédominantes, donc la céramique, le verre sur noyau d'argile, le verre soufflé ne sera inventé que bien plus tard, et nous avons la faïence. Mais nous avons aussi les vases en métal et les vases en pierre, mais qui sont beaucoup plus rares en contexte archéologique. Alors je ne vous ai parlé jusque-là que des vases grecs ou de type grec, des aribales, des alabastres, corinthiens, attiques, laconiens ou étrusques d'imitation grecque. Mais on oublie souvent qu'à l'origine sans doute de cette mode de petits vases à parfum, nous avons l'île de Chypre. L'île de Chypre qui joue un rôle très très important. Et vous voyez sur cette photo des lécites et eunochoé, c'est-à-dire des vases à verser le vin, chypriotes qui sont importés en Crète. Et mais vous voyez le grand nombre de ces petits vases à parfum importés en Crète. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ces lécites chypriotes, vous voyez qui ont une forme bien identifiable, ces lécites chypriotes donnent lieu à des imitations. En Crète, vous voyez, là nous avons des imitations du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez aussi donc, des lécites chypriotes qui donnent lieu à des imitations étrusques. C'est ce que vous voyez ici, ces lécites chypriotes, et vous voyez l'imitation étrusque ici. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas que la Grèce, il n'y a pas que le Péloponnèse, il n'y a pas que l'Attique, il n'y a pas que la Grèce orientale, mais il y a l'île de Chypre qui joue un rôle très très important, et sans doute aussi le monde phénicien. Et vous voyez sur cette photographie ce qu'on appelle des eunochoé à Beaubèche. Bon, là aussi, c'est un terme du 19e siècle, fondé au 19e siècle. Mais vous voyez que l'origine de l'eunochoé à Beaubèche, c'est quoi ? C'est le lécite chypriote. C'est-à-dire que les Phéniciens imitent cette forme spécifiquement chypriote pour créer leur propre vase à parfum. Donc, qu'on appelle l'eunochoé à Beaubèche, et qui est une forme aussi qui est tout de suite identifiable. On fait tout de suite la différence avec le vase à parfum étrusque ou le vase à parfum grec. Et on va voir dans le monde phénicien donc se répandre différents types de vases à parfum. Le monde phénicien et phénico-punique. Donc l'eunochoé à Beaubèche, donc, que vous voyez ici, mais aussi d'autres petits vases qui sont différents de ceux que l'on connaît dans le monde étrusque et dans le monde grec. Ce que l'on appelle donc la petite bouteille à huile, oil bottle, ici, qui est spécifique aussi au monde phénicien, et ce genre de petite cruche, vous voyez aussi, que l'on retrouve dans de très nombreux contextes phéniciens ou phénico-puniques. Donc que l'on soit donc en Espagne du Sud, que l'on soit en Sardaigne, que l'on soit donc en Afrique du Nord. Si bien que vous voyez que on a vraiment une spécificité donc selon les zones de production. Les formes de vases à parfum sont différentes selon les zones de production et ils sont tout de suite identifiables. Or, il y a des vases à parfum qui ont une diffusion universelle. C'est les vases à parfum grecs. On les retrouve en Étrurie, on les retrouve à Carthage, on en retrouve quelques-uns en Sardaigne, on va en retrouver en Gaule du Sud aussi, et en Espagne, les vases à parfum grecs. Par contre, les vases à parfum étrusques, on ne les retrouve que dans des contextes, pas forcément étrusques, mais étrusquisés. Que dans des contextes étrusquisés, sauf, exception, Marseille, Ampurias, cité grecque d'Ampurias, donc en Espagne du Nord-Est, et Carthage. Donc, diffusion d'abord et avant tout étrusquisée pour les vases étrusques. Quant aux vases à parfum de type phénico-punique, on ne les retrouve que dans des contextes phénico-puniques. Bref, on peut se poser des questions. Est-ce que le parfum de type grec a une diffusion universelle? Le parfum étrusque ne concerne que la population étrusque, et le parfum de type phénicien ne concernerait sans doute que la population phénicienne. Et évidemment, la question qui s'enchaîne, c'est donc du coup, est-ce que chacun de ces parfums serait différent? Est-ce qu'on aurait une dimension à la fois technique et culturelle pour chacun de ces parfums? Et enfin, pour terminer ici, pour cette présentation ici du mobilier donc archéologique, comme je vous ai dit, on a des dizaines de milliers donc de vases à parfum. Il y en a quelques-uns qui nous donnent plus d'informations que les autres. Ce petit arrival corinthien, donc du musée archéologique de Cerveteri, on a eu la surprise de découvrir donc une petite masse de métal qui est prisonnière de l'embouchure de ce petit arrival corinthien. Donc c'est une petite masse de plomb et qui donc vous voyez avec une ouverture ici. Une ouverture ici qui faisait sans doute office de, non pas de bouchon, mais de bec verseur ou d'entonnoir. Donc information sur l'usage de ce vase à parfum. Autre vase à parfum qui est original, qui nous donne des informations intéressantes, c'est un alabastre étrusque tel qu'on en connaît des milliers d'autres. Sauf que celui-ci a un décor, parce que c'est un décor, donc de lamelles de plomb. Ce que vous voyez ici, ce sont donc des lamelles de plomb. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi donc intégrer ce décor en métal de lamelles de plomb, donc tout le long ici de la vasque de ce vase à parfum? Je pense que c'est pour imiter donc les petites bourses en cuir qui contenaient du parfum et qui devaient ressembler à celle-ci. Donc c'est pas un vase d'époque archaïque, c'est un vase du 4e siècle avant Jésus-Christ, mais vous voyez que c'est un petit contenant à parfum qui était à la fois en cuir et en métal. Et nous avons encore les traces du cuir prises dans le métal. Donc, celui-ci, qui est pourtant en céramique, imite donc ce type de petite bourse en cuir, donc, mais qui était intégrée donc, dans une sorte de cage en métal, comme vous pouvez le voir ici. Et autre information intéressante, nous avons dans certaines zones italiques, par exemple d'Italie, comme le Picenum, une culture qui est riche, une culture italique qui est très très riche, mais dans laquelle on ne découvre pas de vase à parfum. Dans l'ensemble du Picenum, par exemple, on a découvert en tout et pour tout que deux vases à parfum, deux arribales corinthiens. Et pourtant, dans une culture où les vases à parfum sont pratiquement absents, il y a un contexte, une tombe, une riche tombe princière, une tombe féminine, où nous avons ce vase-ci, qui est un calice, donc c'est un superbe calice. Normalement, un calice est un vase à boire le vin. Mais regardez le couvercle. Donc ce calice est muni d'un couvercle, et la poignée de ce couvercle reprend exactement la forme d'un vase à parfum. Alors c'est assez étonnant, puisque c'est une culture dans laquelle on ne connaît pas de vase à parfum, et pourtant, vous avez un vase qui normalement est destiné au banquet, à la consommation du vin, dont le couvercle épouse la forme d'un vase à parfum. Donc, ici, nous avons une information sur l'intégration donc, du parfum dans le rituel du banquet funéraire. Et, évidemment, autres informations donc, qui nous sont données par ces vases à parfum, c'est leur décor. Là, vous avez un vase étrusque ou étrusco-corinthien. Et alors, nous avons un décor animalier qui est typique de cette époque. Mais regardez ce qui est représenté. Vous avez la représentation d'un coq, enfin de, même de deux coqs affrontés. Vous avez la représentation d'oiseaux aquatiques, ici. Et vous avez la représentation du masque de la panthère. Selon certains, il s'agirait de symboles, d'une symbolique directement en lien avec le parfum. Le masque de la panthère, c'est la panthère, la laine parfumée. Les coqs font partie de ces offrandes donc qui sont faites dans un contexte érotique où on offre aussi le parfum. Et les oiseaux aquatiques sont aussi directement liés donc, au parfum. Autre vase, ici, qui est très, très intéressant et unique en son genre, donc, c'est un aribal étrusque en Buchero Nero. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que premièrement, vous avez une inscription. Donc, c'est ici le nom du propriétaire de ce vase. Mais vous avez ici l'anse et l'attache de l'anse qui a une forme absolument extraordinaire, puisqu'on pourrait croire qu'il s'agit du masque de la Gorgone, mais pourtant ce n'est pas le masque de la Gorgone. C'est le masque d'une divinité chypriote, d'origine égyptienne, avec ce que vous voyez ici, la coiffure hathorique. Une divinité égyptienne qui est directement liée au parfum en Égypte. Donc là, vous voyez que nous avons, c'est un vase du 7e siècle avant Jésus-Christ qui nous donne une information sur, l'origine chypriote du parfum. Alors, maintenant, les sources épigraphiques. Les sources épigraphiques, comme je vous l'ai dit, sont très nombreuses, donc au 7e siècle et début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous avez donc deux articles. Donc, un article récent, celui de Gilles Van Hems, sur le vase à parfum comme support de l'écriture, et un article qui va bientôt paraître, donc qui va paraître donc l'année prochaine. Et donc, dans le monde étrusque, par exemple, nous avons de très nombreux vases à parfum avec des inscriptions qui peuvent être longues. Ce vase à parfum avec un abécédaire, ici, et ce vase à parfum qu'on appelle un aribal poupée, donc du... c'est le nom générique de ce vase à parfum qui porte une très très longue inscription. Alors voici donc l'étude de Gilles Van Hems donc qui propose des tableaux de synthèse donc de ces inscriptions. Ce qui nous intéresse le plus ici, ce qui nous intéresserait, c'est la définition du contenu. Vous voyez que dans le corpus grec, on n'a qu'un seul vase donc qui nous informe sur le contenu. Dans le corpus étrusque, là aussi nous n'avons qu'un seul vase qui nous informe sur leur contenu. Et évidemment, pour nous, c'est un problème, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait comme une sorte d'étiquette, que l'inscription nous dise ce que le vase à parfum contient. Alors, on a dans le monde étrusque, par exemple, un vase à parfum du musée du Louvre sur lequel on a l'inscription « Ruta », donc c'est la rue. Le seul problème, c'est que la rue, ou « Ruta fétida », la rue fétide, normalement, n'appartient pas au domaine des bonnes odeurs, mais au contraire au domaine des mauvaises odeurs. On a un autre vase à parfum, un listitatique, sur l'embouchure duquel nous avons, donc est peinte une inscription, et c'est marqué Irinon. Et là, évidemment, c'est une information très intéressante, puisque c'est l'iris, l'huile d'iris. Mais vous voyez que, hélas, nous n'avons que très peu d'informations. Toutefois, les informations les plus intéressantes, c'est celles qui nous informent sur, qui nous donnent des indications donc sur le statut du parfum et sur l'usage qui est fait de ce parfum. Regardez dans le monde grec. Une grande partie, alors nous avons des signatures d'artisans, mais une grande partie de ces inscriptions sont dans un registre érotique. Un registre érotique, donc ce qui n'a strictement rien d'étonnant, mais le parfum qui est utilisé dans le cadre du banquet, mais dans un contexte érotique, que l'on soit dans un contexte homosexuel ou hétérosexuel. Nous avons aussi... alors, par contre, dans le monde étrusque, ces inscriptions érotiques sont beaucoup plus rares. Nous avons beaucoup plus affaire à des inscriptions qui sont considérées comme des inscriptions magiques, où on nous parle, par exemple, c'est le cas de cet aribal ici, l'aribal poupée, on nous parle de Turane, qui est l'équivalente étrusque d'Aphrodite. Mais Donc nous avons dans le monde étrusque cette dimension magique et cette dimension prophylactique, c'est-à-dire dimension prophylactique de rejet du mauvais sort et de défense. Défense qui soit à la fois défense corporelle ou défense contre tout mauvais sort qui peut être lancé contre la personne. Mais évidemment, le plus étonnant, c'est que ces inscriptions disparaissent dans la seconde moitié du VIe siècle. Et au moment où ces inscriptions disparaissent, nous avons les images qui apparaissent. Dans le monde attique, vous avez la représentation à partir de 540 des aribales. Alors vous voyez que là, nous sommes dans un contexte érotique. Nous avons érotique homosexuelle, nous avons l'offrande, ici, donc, de cadeaux. Nous avons l'offrande du coq, mais nous avons aussi l'offrande de l'huile parfumée, l'offrande de l'aribale. La même chose dans les contextes sportifs. Vous voyez très bien, nous sommes au gymnase ici, vous avez des lutteurs ici, et vous avez le personnage qui se tient derrière, qui tend un alabastre. L'huile parfumée sera offerte donc au vainqueur. La même chose aussi ici, l'aribale plein d'huile parfumée sera offert au vainqueur. On retrouve aussi l'aribale qui est donnée au guerrier alors qu'il s'équipe pour le combat. Et donc nous savons ainsi que l'aribale fait partie du pactage, non seulement de l'athlète, mais du guerrier qui part en campagne. Le guerrier part donc en campagne militaire avec donc cet objet. Donc, mais vous comprenez que du coup, peut-être ne sommes-nous pas seulement dans le domaine donc, du parfum, si les guerriers partent avec ces petits vases. Nous avons aussi donc, ces petits vases qui sont mis en scène dans le cadre de scènes de toilette. Vous voyez ici, c'est tout le pactage, l'éponge, le strigile et l'aribale qui est suspendue aux branches des oliviers. La même chose pour les femmes. Vous voyez ici une scène de baignade, mais aussi de toilette, où vous voyez ces femmes donc, qui se versent le contenu de ces aribales dans le creux de la main. La même chose ici, nous avons là aussi une scène de baignade et de toilette. Et vous voyez cette femme avec une éponge, les autres qui plongent ou qui se baignent, mais vous voyez les aribales qui sont suspendues aux branches des arbres. Donc vous voyez que ces petits objets, donc suspendus à l'aide d'une lanière en cuir qu'on suspendait aux poignets ou aux branches des arbres, donc accompagnait le citoyen ou donc qu'ils soient les hommes et les femmes donc de la cité d'Athènes donc dans leur déplacement quotidien. En Étrurie, nous avons la même chose. On voit apparaître des images là aussi à partir de 540. Des images sur les vases comme celle-ci. Et là, vous voyez, nous sommes exactement dans le même contexte d'une compétition et l'aribale est tendue à celui qui sera le vainqueur. Mais en Étrurie, en fait, nous avons un corpus d'images beaucoup plus original. Pourquoi ? Parce qu'en Étrurie, nous avons les tombes peintes, ce qui n'existe pas en Grèce à cette époque. Nous avons les tombes peintes, et là, nous avons par exemple des plaques qui sont peintes, et vous voyez très bien sur ces plaques donc une procession féminine, et dans le cadre de cette procession féminine, donc une femme qui tient un grand vase à parfum, qui est de couleur noire, et une autre qui tient un autre grand vase à parfum, un alabastre, mais de couleur blanche. Donc on voit que dans le cadre de processions rituelles, mais de laquelle s'agit-il, on ne sait pas, il y a ici la cérémonie donc, du port, donc du vase à parfum. Nous avons ici, dans cette reconstitution du fronton de la tombe de la chasse et de la pêche, de Tarquinia, là aussi, vous avez le couple aristocratique, et là, vous voyez, échange ici gestuel qui est typique donc, de cette époque. Et vous voyez que derrière se tient un serviteur et celui-ci est en train de mélanger le contenu d'un alabastre à l'aide d'une tige à parfum. Et que va-t-il faire après ? On le sait, il va enduire les cheveux donc de l'homme et de la femme donc de ce parfum. Autre procession, donc sur une urne cinéraire étrusque, toujours de la même époque, vous voyez, où nous voyons des femmes ici qui portent des aribales donc dans le creux de leurs mains. Et nous avons ce qui est très original, les célèbres urnes cinéraires. Célèbres urnes funéraires, nous avons le sarcophage des époux. Alors vous avez deux sarcophages des époux, hein, celui du musée de la Villa Giulia, celui du musée du Louvre. J'ai pris celui donc, du musée de la Villa Giulia. Manquent les objets, les vases qu'ils tiennent dans les mains. Le vase que tient cette femme dans la main était sans doute à l'origine un vase en métal qui a disparu depuis, mais c'était un alabastre en métal. La même chose pour le sarcophage des époux du musée du Louvre. Et comment est-ce qu'on peut le savoir ? Eh bien, tout simplement, regardez ces urnes cinéraires. Ici, on voit très bien que vous avez, pour celle-ci du musée de la Villa de Giulia, une femme qui fait couler le contenu de cet alabastre dans le creux de sa main. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que, en fait, vous avez plusieurs vases à parfum qui sont représentés dans la même image. Elle manipule un alabastre, mais regardez son collier. De quoi est fait son collier ? Son collier est fait de petits vases à parfum. Et on en a retrouvé plusieurs de ces colliers en métal, et eux-mêmes contenaient du parfum. Et là, vous voyez la même chose pour cette autre urne cinéraire, où nous avons toujours le couple aristocratique, mais donc cette jeune femme qui verse du parfum donc dans la main donc de son époux. Donc là aussi, nous avons un rituel très intéressant que l'on ne connaît que dans le monde étrusque, que l'on ne connaît absolument pas, par exemple, dans le monde grec. Bon, la même chose ici, où nous voyons donc l'alabastre qui est offert donc au vainqueur donc de cette course à pied. Alors, dans le monde étrusque, on a aussi des plaques funéraires. Dans le nord de l'Étrurie, dans la région de Chiusi, on a des plaques funéraires, et regardez ce qui est représenté sur ces plaques funéraires. C'est ce qu'on appelle la scène de la prothésis, c'est-à-dire l'exhibition du défunt, ou en l'occurrence ici de la défunte. Mais vous voyez qu'autour de cette défunte, nous avons des femmes qui diffusent le parfum. Regardez, elles tiennent des alabastres, des vases à parfum. Donc diffusion du parfum, donc ce n'est pas seulement le corps qui est enduit de parfum, mais on diffuse donc le parfum pendant toute une partie de la cérémonie. Mais regardez cette deuxième plaque qui est aussi très intéressante. Donc nous avons exactement la même scène. Nous avons la scène d'éploration ici. Nous avons ici cette jeune femme qui tient dans sa main droite un vase à parfum dans le creux. Mais regardez ce qu'elle tient ici dans la main gauche. Vous voyez que ce n'est pas un vase à parfum. En fait, ce sont deux petites outres en cuir. Deux petites outres en cuir, ce sont aussi des vases à parfum. Donc voici ce qui nous manque comme information. Puisque ces vases à parfum qui étaient en cuir, qui étaient très nombreux, évidemment, il ne nous en reste rien. Mais il faut savoir que le cuir représentait un contenant sans doute très important pour les parfums à l'époque. Une scène qui est unique et qui est très intéressante, donc sur un vase étrusque, donc vous voyez un homme qui est en train de plonger un végétal dans un vase à parfum. Alors ça, on peut le mettre en relation avec une découverte unique qui a été faite dans la nécropole de Calatia en Campanie, où on a retrouvé un vase étrusque, un vase à parfum du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui était empli d'une branche de thym, et une branche de thym qui a été conservée et qui a été enfoncée de force donc dans le vase à parfum. Mais vous voyez, ça correspond exactement à cette scène où on voit un homme en train de plonger un végétal donc dans le vase à parfum. Alors pour l'iconographie qui est connue depuis longtemps, nous avons, alors là je déborde un peu de l'époque archaïque vers l'époque classique, on arrive vers vraiment la fin de l'époque archaïque, tombe des léopards de Tarquinien, célèbre tombe, et vous voyez cet homme qui tient un vase à parfum, mais faites attention à la taille de ce vase à parfum, hein. Ce vase à parfum est de taille gigantesque. Donc de quoi s'agit-il exactement ? En quelle matière peut être fait ce vase à parfum ? En fait il s'agit d'un vase à parfum en pierre. Et sans doute en albâtre. On a trouvé quelques-uns de ces vases à parfum, mais qui sont de très très grande taille. Et pour terminer, ici, la tombe de Triclinium, là aussi on déborde légèrement de l'époque archaïque vers l'époque classique. Et donc vous voyez cette femme aussi là, qui tient un vase à parfum dans le creux de sa main. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est regarder de quelle matière est fait ce vase à parfum. Vous avez la partie inférieure qui est sans doute en pierre et la partie supérieure qui est en métal. Donc là aussi, vous avez un superbe vase à parfum. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que le vase à parfum est bouché, en l'occurrence, ici. Et je termine par la source iconographique par deux découvertes récentes. Deux découvertes récentes. Je ne vous ai parlé ici que en ce qui concerne l'iconographie, que du monde grec et du monde étrusque. Disons qu'il y a des cultures qui sont plus bavardes que d'autres, qui se mettent en images. Dans le monde phénicien, nous avons beaucoup moins d'images. Sauf que là, nous en avons une. Nous sommes en Sardaigne. Donc dans le sud de la Sardaigne, donc nécropole de Soulky, dans le sud de la Sardaigne, et là, découverte extraordinaire de Paolo Bernardini, donc une grande chambre funéraire du 5e siècle avant Jésus-Christ, et regardez ce qui est représenté. Vous avez un pilier central, et adossé à ce pilier central, vous avez une sculpture, et cette sculpture est absolument étonnante, parce qu'elle est d'inspiration égyptienne, donc nous sommes dans un contexte phénicien ou phénico-punique. Elle est typiquement d'inspiration égyptienne, mais ce que porte l'homme ici, c'est à la manière grecque, un petit vase à parfum suspendu à son poignet. Donc, vous voyez que nous avons une inspiration à la fois égyptienne, le style est égyptien, la manière de tenir le vase à parfum est grecque, par contre, le vase à parfum lui-même est phénicien. Donc, vous voyez ici, nous avons un télescopage ici de trois cultures différentes, égyptienne, phénicienne et grecque. Et là, c'est la découverte la plus récente qui soit, donc un contexte qui est toujours en cours de fouille, le tumulus de la reine de Tarquinia, donc un article donc, de l'année dernière de la revue italienne Archaeologia Classica. Et là, nous avons le contexte donc, d'un tumulus, qu'on pourrait qualifier de tumulus princier, d'ailleurs, on l'a appelé tumulus de la reine. Et nous retrouvons donc une tombe à chambre, avec précédant les trois chambres, hein, vous voyez une chambre axiale, dans l'axe du couloir d'accès, le dromos, les deux chambres latérales, donc les trois chambres n'ont pas encore été ouvertes, c'est en cours de fouille. Et donc là, les équipes italiennes ont fouillé le dromos. Et ils ont découvert, rappelez-vous que toutes les peintures funéraires que je vous ai montrées tout à l'heure ne sont qu'à l'intérieur des chambres funéraires. Hein. Et là, pour la première fois, a été découvert sur le côté est donc, du dromos, des traces de peinture. Nous avons une sorte d'enduit ici, et des traces encore visibles. Ce que vous voyez ici, ce que j'ai mis ici avec la flèche, mise en évidence, c'est l'entrée de la chambre latérale, droite, qui n'a pas encore été ouverte. Hein. Et regardez ce qui est représenté. Alors évidemment, la peinture, on ne voit plus grand-chose. Mais vous voyez une main, ici, qui tient distinctement un vase à parfum. Et donc c'était en fait une personne, et sans doute une femme, et elle tient d'une main, de la main droite, le vase à parfum, et de la main gauche, elle tient suspendu, à l'aide d'une petite lanière, un autre vase à parfum. Et là, c'est un contexte de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que pour la première fois, sont représentés ici dans un contexte funéraire, deux vases à parfum spécifiquement étrusques. Ce genre de petit alabastre à fond plat qui est spécifiquement étrusque, et ce genre de petit alabastre à fond pointu qui est spécifiquement étrusque. Alors, de quel rituel s'agit-il ? Mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez que les peintures funéraires à l'intérieur d'une chambre funéraire, qui est fermée, par définition, dans laquelle on va déposer le corps ou l'urne cinéraire du défunt, bien, ces peintures funéraires sont faites pour les défunts. Elles sont faites pour les morts, elles ne sont pas faites pour les vivants. Par contre, le dromos. Le dromos, on sait très bien que les dromos, un complexe comme celui-ci, un complexe funéraire comme le tumulus, n'est pas seulement une tombe, c'est aussi un sanctuaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des rituels en l'honneur des ancêtres, en l'honneur des défunts. Et on sait que nombre de ces rituels ont lieu sur la partie supérieure du tumulus, mais aussi dans le dromos. On s'adresse directement aux défunts. Et ici, nous avons une information directe, puisque qu'est en train de faire cette femme, elle se rapproche. Ici, vous voyez, elle est toute proche. Donc, vous voyez, les peintures, la peinture juste ici, l'alabastre est là, la ribale est là. Elle s'apprête, en fait, à oindre la porte d'entrée de la chambre funéraire. Voici un rituel, vous voyez, qui est un rituel funéraire, mais qui ne se fait pas au moment des funérailles. Ou alors, il se fait au moment des funérailles, au moment de la fermeture de la porte. Mais c'est sans doute un rituel qui avait lieu donc de manière régulière, un hommage aux défunts, on allait enduire donc la porte d'entrée donc de la chambre funéraire.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Dominique Frère, maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne de Pelchin. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec Henri Laurence et son cours sur la question de Palestine. Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.